c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de cette nouvelle émission inédite de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. Merci de nous rejoindre. Et dans un instant, elle joue Prune dans la série Ainsi Grand Soleil. Elle va nous faire découvrir sa web-série. Nous sommes en guerre. Stana Roumiac sera avec nous en ligne d'ici quelques instants. Nous aurons le plaisir également de terminer l'émission en musique avec le DJ local de Nouvelle-Aquitaine, Eugène de Rastignac, qui nous fera découvrir son tout nouveau single. Et dans nos coups de cœur télé de cette semaine, OPJ fait son retour sur France 3. Sur une grande chaîne, la série tournée en Nouvelle-Calédonie avec notamment Antoine Stip qui sera notre invité tout à l'heure pour en parler avec nous. On va bien faire un zoom sur cette excellente série. Nous allons avoir le plaisir de reparler de la série Réunion avec Sarah Martin qui sera notre invité. Du documentaire diffusé ce soir sur France 3 Île-de-France, La rue est à nous avec Charlotte Lavocat, sa réalisatrice. Et puis nous aurons enfin le plaisir de recevoir Annie Gregorio pour fêter la dernière semaine d'épisode inédit de Plus belle la vie. Elle joue Claire dans la série. Alors vous l'avez compris, c'est un programme chargé qui nous attend. On va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et lundi dernier, on commençait avec le final de la série Les Bracelets Rouges. Et c'est un beau final, hein, 5 424 000 téléspectateurs pour 19,4% de part de marché. Meurtre au paradis sur France 2 s'en sort bien avec 4 685 000 téléspectateurs et 16,6% de part de marché. Les Gendarmes, toujours en forme sur M6 avec 2 790 000 téléspectateurs. Mardi, il y avait Harry Potter sur TF1. C'est un carton pour la Chambre des Secrets, 6 905 000 téléspectateurs et 29,2% du public. Mais Tandem sur France 3 s'en sort très bien avec plus de 5 millions de téléspectateurs et 17,9% de part de marché. Et c'est un beau score également pour Le plus beau pays du monde sur France 2 avec 2 906 000 téléspectateurs. Et puis mercredi, il y avait la nouvelle série sur TF1 The Resident. C'est un beau score, 4 589 000 téléspectateurs et 17,1% de part de marché. Très gros score également pour Top Chef avec 3 847 000. Et Réunion s'en sort bien également sur France 2 avec 3 215 000 téléspectateurs. Petite déception pour La carte au trésor avec seulement 2 345 000 téléspectateurs. Et puis la 7ème compagnie jeudi sur TF1 toujours autant en forme. Elle était au clair de lune ce coup-ci avec 6 440 000 téléspectateurs et 24,8% de part de marché. Très beau score pour Why Women Kill sur M6, 3 590 000 fidèles. Et puis le film 9 mois ferme également s'en sort bien sur France 3 avec 2 691 000 téléspectateurs. À noter l'excellente performance de la série Dérapage sur Arte avec 2 215 000 téléspectateurs et 8,6% du public. Et enfin un mot sur vendredi avec Koh-Lanta et 6 493 000 téléspectateurs, 24,4% de part de marché au coude à coude avec Candice Renoir sur France 2 qui fait un score exceptionnel, 6 428 000 téléspectateurs pour 23,7% de part de marché. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, vous le savez, depuis ce début de confinement, toutes les semaines, on met en avant une web série parce que la création passe aussi par le web et vous avez bien plus le temps de les découvrir en ce moment. Et on va découvrir Nous sommes en guerre. Alors ça tombe bien, c'est terriblement d'actualité. D'ailleurs, cette web série est née grâce à ce confinement aussi, une web série 100% confinée que va nous présenter notre invitée Stana Roumiac. Bonjour Stana.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien, Stana. Alors les fans d'Ainsi Grand Soleil, évidemment, te connaissent dans le rôle de Prune, qui a évidemment éconduit le beau Gary dans la série. Hein. Il a été à la charge pendant un sacré bout de temps, avant de comprendre que c'était plus la peine.
Pendant pas mal de mois, effectivement, j'avoue.
Bon, on va en parler évidemment de ce rôle de Prune dans quelques instants. Mais d'abord, moi j'aimerais savoir comment est née l'idée, comment a germé l'idée dans ta tête de développer ce personnage de Stella et de développer cette web série Nous sommes en guerre, dont là pour l'instant, vous avez seulement, là au jour où je vous parle, les deux premiers épisodes seulement en ligne. Hein.
Deux épisodes, donc on compte faire un épisode par semaine, donc tenir jusqu'à la fin du confinement. L'idée est venue avec trois personnes qui sont confinée, donc je suis confinée avec le metteur en scène. Et on se dit, mais pourquoi pas justement profiter de cette situation et créer quelque chose 100% confiné. Parce que du coup, je suis comédienne, nous avons un ami scénariste, et lui, il était metteur en scène. Donc, c'est parti de ce constat. Et on s'est mis à faire un peu de brainstorming, et à y aller, quoi, et à sauter. Et donc, nous sommes en guerre, aimés, simplement.
Alors, le personnage de Stella est un personnage qui pense que le confinement est un vaste complot, qui est complètement contre tout ça, quitte à se fâcher avec ses amis. Hein.
Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est l'idée de point de départ, c'est vraiment partir de ce personnage qui ressemble à plein de gens, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux et sur Internet, plein de personnes sceptiques ou qui parlent de complot ou qui parlent du fait que le virus n'est pas un vrai virus dangereux. On est parti de ce personnage pour justement la faire évoluer, faire quelque chose de positif et de beau avec un message lumineux. Donc Stella, au départ, effectivement, fait partie de ces personnes qui ne croient pas au virus, ne croient pas dans le fait qu'il soit dangereux et pensent que toutes ces personnes qui croient se font manipuler et sont limite un peu naïves. Voilà, et on va la suivre du coup dans cette évolution.
Alors oui, une web série 100% confinée, évidemment, pour le coup, Stana, est-ce que ça rajoute des difficultés quand on est comédien ou metteur en scène, le fait de pas pouvoir sortir, d'avoir un décor unique, d'être obligé de produire 100% à la maison, pour le coup?
En fait, ça rajoute une difficulté, en même temps une liberté, parce que du coup, on n'est qu'à deux. Donc on n'a pas la pression de l'équipe dans sa globalité, de la technique, on n'a pas de respect d'heure, de respect de plan. On est encore dans la créativité, on se permet aussi de proposer. Moi, je propose. Il n'y a pas de barrière, de frontière, de métier, entre guillemets, même si chacun a sa profession. Ensuite, effectivement, la difficulté, c'est t'es tout seul, quoi, j'ai envie de dire. Donc, souvent, quand il y a des visios, je joue tout seul, et après, c'est le montage qui fait quelque chose. Donc, en fait, on est un peu tout seul. Donc, il n'y a pas ce côté, action, j'écoute et je réagis, véritablement, puisque je suis toute seule face à des personnages qui ne sont pas vraiment devant moi. Donc voilà. Mais c'est plutôt vraiment... Enfin, moi, je kiffe cette expérience. Hein. J'y ai pensé, le fait de pouvoir le faire comme ça, c'est assez jouissif, quoi.
Ça t'a fait du bien? C'est une nécessité pour toi, justement, de créer, de faire quelque chose pendant ce confinement, quelque chose qui t'appartient et en même temps pour t'occuper, hein.
Exactement. C'était limite un peu vital, hein, le fait de pouvoir créer quelque chose et de se dire, il y a besoin de personne d'autre que ce que soi, en fait. Et l'idée d'être confiné, justement, ça propulse, ça donne une force de pouvoir le faire, je trouve, puisqu'on est confiné. On peut pas vraiment aller à l'extérieur, on peut pas avoir des rendez-vous. Donc, du coup, c'est un moteur. Et j'adore.
Alors, pour l'instant, Un si grand soleil est en pause. Hein. Le tournage a été stoppé depuis le 13 mars dernier. Il y a à peu près une cinquantaine d'épisodes d'avance. On ne sait pas quand c'est qu'on les verra. Pour le moment, on n'a pas de date de reprise de la série. Mais est-ce que pour toi, Un si grand soleil a été un tournant? On peut dire que c'est une grande aventure aussi.
Ah, c'est une magnifique aventure. C'est à partir d'une quotidienne pour France Télévisions avec des gens merveilleux en plus. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire, mais c'est incroyable d'avoir 200 personnes qui s'entendent comme ça, avec leurs différences, leurs points communs, quel que soit. Enfin, c'est juste magique. Moi, je suis fan de tout le monde, quasiment, humainement et professionnellement. Et j'avoue que je suis très chanceuse et très reconnaissante d'être faire partie de cette aventure depuis quasiment le début, à quelques mois près, quoi. Donc oui. Oui, et oui.
Alors, t'as tourné, enfin, la majorité hein, de tes scènes, c'est avec Alban, pour le coup, Jérémy et Julien. Tu tournes beaucoup avec ces trois-là, mais est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui remonte un peu à la surface quand on te parle de tes scènes avec eux?
En fait, j'ai pas vraiment un souvenir, parce que c'est Elle Cosmétique, en fait, qui me revient, puisque du coup, je fais partie d'Elle Cosmétique, et il y a vraiment, comme je disais en avant, il y a vraiment cette unité, il y a vraiment... cette création qu'on a pu faire de Elle Cosmétique ensemble, qui existe, cette boîte, c'est comme si elle existait vraiment, pour de vrai, avec nous dans nos cœurs tous les jours, en fait. Donc, si je dois mettre en avant un sentiment, quelque chose, ce serait ça, en fait. Je trouve ça magique. Donc, voilà.
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que pour les gens qui ne savent pas, donc les intérieurs de bureau sont en studio hein, de Elle Cosmétique. Mais oui. Quand vous vous retrouvez par exemple dehors à l'entrée de Elle Cosmétique, c'est aussi l'entrée des bureaux de la production du feuilleton.
Oui, bah, y a tout qui est amorti, en fait, les studios, de l'intérieur et de l'extérieur, effectivement. Donc, quand on arrive à Vendargues, on peut voir les cosmétiques, les locaux depuis l'extérieur. Donc, oui, effectivement, tout se passe à Vendargues, extérieur et intérieur.
Alors, il n'y a pas eu une grosse intrigue encore autour du personnage de Prune, mais est-ce qu'on risque dans les prochains mois ou les prochaines semaines d'en apprendre plus sur Prune, sur sa vie privée, sur le personnage, tout simplement?
J'espère beaucoup. Donc, c'est un peu prévu, mais je ne saurais pas dire quand. Mais en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, parce que vraiment, j'adore ce personnage de Prune. J'aime son empathie, sa dévotion, et il y a plein de choses qui peuvent être développées à travers elle, puisque justement, il n'y a rien qui a encore été vraiment touché par rapport au personnage autour d'elle. Il y a plein de possibilités. Et j'adorerais qu'elle soit développée. Je pense que ça pourrait être super intéressant.
Bon, en attendant, nous sommes en guerre, ne l'oublions pas, puisque là, vous venez de pouvoir bien voir les deux premiers épisodes sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller voir, hein, tout simplement. Vous trouverez les liens sur ta page officielle Stana Roumillac,
ouais, où tu mets les liens. Et aussi sur YouTube, sur la page de Free Zero Film. Si vous tapez « Nous sommes en guerre », la série, je pense qu'il y aura un lien direct qui apparaîtra.
Eh bien, allez voir, c'est très drôle, des petites pastilles de 5 minutes qui vous sont proposées. On va en écouter un petit extrait, bien évidemment, juste avant de se quitter. Merci à toi, Stana, et on te dit à très vite.
Merci beaucoup, merci à tous, merci de m'avoir reçu.
Et à très bientôt. Oui, à très bientôt.
Bisous.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
Salut ma poule.
Cool.
Ça va? Ça va la chômeuse très très longue durée? Ça te change pas grand chose toi, finalement, le confinement?
Tu rigoles ou quoi? J'ai des journées de dingue. Attends, j'étais voir le dernier James Bond. J'ai mangé McDo et j'ai dévalisé tous les magasins. Et là, je me prépare pour... Et toi?
Bah écoute, moi... En vrai, meuf, je suis trop dans le mal. J'ai pris 3 kilos. 3 kilos depuis le début du confinement, quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Antoine Stipe, Sarah Martin, Charlotte l'avocat, le DJ Eugène de Rastignac et bien d'autres surprises encore. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et coups de cœur télé, eh bien ça c'est toute la semaine, du lundi au vendredi, et je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle en plein confinement, puisque vous allez pouvoir vous dépayser tous les matins du lundi au vendredi à 9h55 sur France 3, et ce dès aujourd'hui avec OPJ, Pacifique Sud. Après un passage remarqué à l'automne sur France O, eh bien la série passe dans la cour des grands et débarque donc sur France 3, et on a Antoine Stipe qui joue justement Gaspard qui est avec nous. Bonjour mon cher Antoine.
Bonjour Alain, bonjour cher public.
J'espère que tu vas bien. Alors c'est une super nouvelle de voir la série débarquer sur France 3 en plein confinement. Ça va être l'occasion, eh bien, pour le public de découvrir cette super série tournée en Nouvelle-Calédonie.
Oui, alors bon, c'est difficile de trouver des motifs de réjouissement en ce moment. Voilà, mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour OPJ d'avoir une exposition en plein confinement. C'est certain que c'est... Ça va nous faire du bien, mais bon, voilà. Puis on va surtout apporter du soleil, non, parce qu'il y en a plein en France, mais des palmiers, des belles histoires, un joli cluedo.
Alors, il est vrai que des belles histoires, mais dis-moi, tu nous en as raconté une belle aussi pendant 6 ans où tu as joué le méchant Charles de Kervélec dans la série Cut. Alors, si j'ai bien compris, Antoine, pour t'avoir sur un tournage, il faut aller tourner au soleil, hein. Après la réunion, direction Nouméa maintenant.
Ouais, pour m'avoir dans le cadre, il faut qu'il y ait un palmier ou deux derrière.
Le palmier et le soleil te va bien.
Ouais, c'est vrai que c'est, malgré tout, c'est un pur hasard. Mais c'est vrai que Terrence, ils ont quand même une vocation à tourner pas mal aussi, dans les dom-toms, dans les pays exotiques, hein. Ils ont tourné au Vietnam, en Australie, voilà. Et puis voilà, bah, comme c'est une petite famille, j'aime bien tourner avec eux, alors voilà.
Alors, tu partages notamment, on va dire l'affiche, hein, avec 3 coéquipiers. Alors, bien sûr, hein, la chef en chef, qui vient aussi de la série Cut, c'est Yael Troulès qui joue le rôle, eh bien, de Clarissa. Et puis, bien sûr, on y retrouve aussi Nathan Delem, qu'on a vu dans plein d'autres séries, qu'on va réécouter d'ailleurs présenter son personnage dans un instant. Et puis, une jeune comédienne qu'on n'avait pas encore vue, me semble-t-il, c'est Marielle. Hein.
Oui, bah Marielle, elle est issue du jus calédonien, hein. Elle est kanak, elle vit en tribu. Elle était animatrice là-bas et elle a réussi le casting et elle a rencontré Stéphane là-bas. D'abord parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas excessivement de tournages, donc c'est très difficile d'avoir des comédiens professionnels. Il y en a, hein, il y en a une bonne quinzaine et ils sont excellents, on les a utilisés d'ailleurs. Mais là, Marielle, elle a profité de l'écriture d'une jeune kanak de 25 ans pour avoir le rôle et elle est super, vraiment, elle nous a donné de l'air frais, nous, notre expérience, et voilà, et ça fait un bel amalgame.
Très très juste en plus dans le rôle de Kelly. On suit vraiment donc cette brigade qui toutes les semaines va nous emmener du lundi au vendredi pour une enquête unique pendant 5 jours, qui trouvera sa résolution à la fin de la semaine. C'est aussi ça le concept d'OPJ. Hein.
C'est ça, et c'est vraiment, vraiment haletant et bien mené, parce que c'est comme un clédo hebdomadaire. On démarre l'intrigue le lundi, elle est résolue le vendredi. Donc du coup, on s'amuse à vouloir résoudre le... Bon, nous on connaît les histoires, mais... Les gens avec qui ont regardé OPJ m'ont fait ce témoignage, ils m'ont dit c'est vachement bien parce que ça laisse le temps pour la semaine de résoudre de l'enquête, quoi. Alors après on va voir ce que ça donne en 52 minutes quand ce sera en prime.
Oui, exactement, puisque ça va passer en prime time dès le 15 mai sur France O. Et donc, les 5 épisodes, en fait, de 24 minutes vont être remontés en 2 fois 52. Et donc, en une soirée unique, voilà, pour vous faire des belles soirées sur OPJ, eh bien, ça sera dès le 15 mai, à ne pas rater, bien évidemment. Alors, comment tu définirais Gaspard, toi, Antoine ?
Gaspard, oh, c'est un Calédonien, pure souche. Il a la cinquantaine, c'est un broussard, il a grandi dans un ranch que son père a perdu au jeu, qu'il a voulu récupérer. Il a vécu une séparation douloureuse. Il démarre une histoire d'amour avec la médecin légiste, Joséphine. Et c'est un flic à l'ancienne, hyper sympa, hyper touchant, très efficace dans le boulot et tellement maladroit dans sa vie privée. Et puis c'est surtout... un des meilleurs amis de Clarissa Ouaro, enfin Yael. Il adore sa fille, dont il est le parrain, et puis il va y avoir aussi une espèce de confrontation avec le lieutenant Belle-Rose, joué par Nathan Delem, parce que c'est le flic à l'ancienne face au flic qui sort tout droit d'école.
Au jeune fou, un peu.
C'est ça, ouais.
Et bien justement, on a rencontré Nathan Delem au dernier festival des créations télévisuelles de Luchon. On y a demandé de nous définir et de nous expliquer un peu le rôle de Jackson. On va l'écouter tout de suite.
Je dirais que c'est un personnage qui est assez atypique parce qu'il arrive avec un état d'esprit qui est vraiment propre à lui, une mentalité très parisienne, très fermée. On n'arrive pas à le cerner. Et puis c'est quelqu'un qui est assez solitaire, qui veut bosser tout seul, qui pense un peu à sa manière, qui est pas très ouvert. Et puis il va être confronté au fait de devoir travailler dans un espace qu'il maîtrise pas, avec des codes, des coutumes qu'il connaît pas du tout, et il va devoir s'y acclimater, et ça va pas être évident pour lui, mais petit à petit il va s'y faire, il va trouver ses marques.
Voilà, Nathan Delem, donc que vous retrouverez dans OPJ Pacific Sud. Alors on rappelle l'horaire, hein, c'est 9h55 sur France 3, c'est tous les matins pour bien démarrer la journée du bon pied. Et bien vous allez pouvoir voir cette magnifique série tournée en Nouvelle-Calédonie. Alors 50 épisodes hein, pour l'instant composent la première saison qui a été diffusée déjà sur France O à l'automne, et donc vous étiez parti juste avant le confinement pour tourner la saison 2 qui en composera 70, mais du coup vous avez pu mettre que 2 jours de tournage en boîte pour l'instant.
Oui. Moi je suis parti 7 mars, mais la préparation était là depuis plusieurs semaines déjà. Voilà, il fallait qu'on s'adapte un petit peu, le décalage, la chaleur, la cohérence physique d'ailleurs, le bronzage, tout ça, l'assimilation des textes, et on a démarré le 18 mars, au taquet, on a fait une super journée de tournage. Et le lendemain, on s'apprête à tourner, on va sur le plateau, et là, ça y est. Malheureusement, les premiers cas venaient d'arriver sur le caillou, et ils ont décidé d'arrêter tout tournage, tout truc, et puis même de nous rapatrier, demander de nous rapatrier en France. C'était assez violent, mais bon, on s'en doutait un peu, on le sentait venir. Nous, on est au taquet, on est prêt à y retourner, et il semblerait que rien ne s'oppose à ce qu'on vienne tourner, même si on doit suivre une période de quatorzaine, hein, ou peut-être en septembre.
Alors Antoine, comment ont accueilli justement les habitants de la Nouvelle-Calédonie cette série ?
En tout cas, là, quand on est revenu à Nouméa, d'abord, il faut savoir c'est que les dom-toms suivent vraiment, vraiment, vraiment François et les chaînes premières. Donc déjà, Cut, ils avaient adoré, même en Nouvelle-Calédonie. Et là, comme on est un petit peu la fabrique est un peu la même. Il y a vraiment une patte, Terrence. Il y a vraiment une façon de tourner. Moi, je trouve excellente. Enfin, voilà, c'est normal. Et nous, mais en Nouvelle-Calédonie, ils ont adoré. Ils ont adoré au PJ. Ils ont trouvé que ça était très, très fidèle à leur île. Et puis même, nos persos étaient fidèles à ce qu'ils sont, eux. Ils se sont vachement retrouvés dans OPJ. Et donc, un très, très bon accueil. Voilà, la meilleure des preuves, c'est que ça a plu au groupe France Télévisions, ça a plu là-bas. Et donc, on y retourne. On y retournait et on y retournera.
En tout cas, vous allez pouvoir suivre donc non seulement la série au quotidien sur France 3, 9h55 du lundi au vendredi, et ce, dès aujourd'hui, en ce lundi 27 avril. Et puis, dès le 15 mai, vous pourrez suivre la soirée en prime time sur France O et passer, eh bien, chaque semaine une soirée avec OPJ Pacifique Sud, avec, eh bien, toute l'équipe de comédiens. Merci beaucoup, Antoine.
Bah, merci Alain, merci de relayer toujours ton actualité et la nôtre également.
Exactement, on reste soudés tous ensemble et on va écouter bien un petit extrait pour vous donner envie de regarder dès demain matin si vous avez raté le premier épisode ce matin. Eh bien le deuxième c'est demain matin à 9h55, voici tout de suite donc eh bien un petit extrait rien que pour vous. Merci Antoine, à très vite.
Salut, tata, bisous comme on dit là-bas.
Jackson, je te présente le capitaine Gaspard Watson.
Bienvenue à bord.
Et notre procédurière, Kelly Quaté. On a une mort suspecte à l'usine de nickel de Doniambo. Vous avez déplacé le corps?
Bah oui, il venait de travailler de mes hommes.
Vous connaissez la victime?
Émile Franquin. Il était chargé d'un plan de redressement de l'usine.
Un truc étrange, il n'avait qu'une seule chaussette.
Je te présente ma femme.
Ex-femme.
Oui, enfin, on n'est pas encore officiellement divorcé. Allez bien, fiston, je vais te boire un verre.
Hé, je suis ni ton fils ni ton pote, d'accord?
La bagarre, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais rien.
C'est pas rien de se bagarrer. J'ai un bon client, un certain Mercier. Il a fait un malaise quand on l'a arrêté. Il est à l'hôpital.
Allez, coup de cœur télé consacré au documentaire La rue est à nous qui va être diffusé cette semaine sur France 3. Et on a chance d'avoir avec nous aujourd'hui eh bien la réalisatrice Charlotte Lavocat qui est avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être là. Et on a Joachim Landau qui est avec nous, le producteur. Bonjour Joachim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. La rue est à nous, c'est un sujet, encore une fois, terriblement d'actualité. On parle là de harcèlement de rue à travers un fait réel qui est arrivé, celui de Marie Laguerre. On peut déjà, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de réaliser et de produire en même temps ce sujet sur La rue est à nous.
Alors
Charlotte ou Joachim, producteur ou réalisatrice en premier?
Charlotte.
Allez, Charlotte.
Le harcèlement de rue, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, qu'on a déjà vu. C'est peut-être le secret de Polichinelle qui concerne le plus de femmes, en fait, qui est le plus prégnant chez les femmes. Et en fait, c'est que très récemment, peut-être à cause, ou grâce en tout cas à l'histoire, l'affaire Marie Laguerre, qu'on a enfin pu s'autoriser les mots et s'approprier un discours pour en parler. C'est pas un phénomène nouveau, mais c'est que très récemment, en fait, à cause des preuves visuelles, donc l'affaire Marie Laguerre, c'est cette jeune femme qui s'est fait harceler dans la rue, qui avait vécu une agression, c'est d'abord du harcèlement, puis une agression, en fait, puisqu'elle a été frappée. Son agression a été filmée par une caméra de vidéosurveillance et elle a décidé de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et ça a été viral. Dès le lendemain, elle a reçu des milliers de messages et on s'est rendu compte, en fait, que cette expérience-là, elle ne concernait pas qu'une femme, mais des milliers de femmes. Et donc, ça a pris une dimension politique. Voilà. Donc, c'était le moment, en fait, elle symbolise la bascule de notre société qui, enfin, s'est autorisé à en parler et à dire c'est pas banal, c'est grave et il faut que ça change.
Alors Joachim, justement, le regard d'un homme sur le parcours de Marie qu'on suit effectivement sur cette histoire, j'aimerais bien avoir votre regard à vous, Joachim.
Alors la première chose, c'est que le harcèlement de rue, c'est un fléau. On peut tourner autour, on peut se dire que c'est pas grave, on peut se dire que c'est des petites choses, etc. Mais c'est une réalité pour la majorité de la planète, que sont les femmes. Donc en tant qu'homme, on a deux choix qui s'offrent à nous. On peut s'inventer plein de choses, mais on a véritablement deux choix. L'un, c'est pas de regarder les médias, pas d'écouter ce que disent la radio, les télés, pas regarder dans le métro, pas regarder dans le bus, pas regarder dans la rue. Donc on peut faire semblant. Et puis on a un autre, c'est s'engager fortement et très clairement. Et moi, en tant qu'homme, ma façon de m'engager, pas dans ma sphère personnelle, mais dans ma sphère professionnelle, dans mon secteur, etc., c'est de produire un film avec Charlotte qui en parle très clairement, sans diplomatie, sans chercher à arrondir les angles, parce que c'est une réalité. Et l'idée, c'est de faire un film qui, quand vous en sortez, vous êtes d'accord ou pas d'accord, presque pas, mais vous pouvez pas le nier.
Donc là, on suit effectivement le parcours de Marie. Ça touche évidemment une grosse proportion de femmes, mais ça touche aussi des hommes. Hein. Des hommes se font harceler aussi par ça, enfin agresser. On parle plus d'agression concernant les hommes. Est-ce que Marie était difficile à convaincre de raconter son histoire à travers votre reportage, Charlotte?
Marie, elle est assez exceptionnelle parce que depuis 2 ans, depuis cette agression, elle a fait de son expérience un combat politique militant. Et elle s'est dit, c'est le moment ou jamais. Elle s'est vraiment sentie investie de sa responsabilité. C'est le moment ou jamais pour faire changer les choses. Elle avait cette couverture médiatique qui lui a permis de sensibiliser massivement le public à ce sujet. Et donc, elle a accepté, malgré plein de demandes d'interview, elle a accepté de faire ce film-là pour que ce soit encore diffusé, qu'on n'oublie pas, parce que des sensibilisations sur ce sujet, il y en a eu déjà. Il y a eu un film en 2014 d'une étudiante belge qui s'appelle Sophie Peters, qui a fait un film qui s'appelle Les femmes de la rue, et qui a montré avec une caméra cachée ce qu'elle vivait au quotidien dans les rues de Bruxelles. Ça a choqué tout le monde.
Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. S'il y a harcèlement d'hommes, c'est un épiphénomène. C'est tellement mineur qu'on ne peut pas considérer que ce soit le propos principal. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que c'est le harcèlement des femmes dans les rues, mais pas que dans les rues. C'est devenu tellement banal, vous utilisez le mot banal, c'est-à-dire qu'on ne le voit même plus. C'est transparent, on ne s'offusque même plus. Dans le métro, un nombre de femmes qui vont se faire, je vais utiliser un mot un peu grossier, désolé, qui vont se faire emmerder, personne ne se lève et se va s'interposer.
Il y a Plus belle la vie qui a traité évidemment le harcèlement de rue à travers le personnage de Samia aussi dernièrement sur France 3. Est-ce que la solution serait pas effectivement qu'il y ait une vraie application comme Samia a pu montrer dans la série, mais qu'il y ait une vraie application que les femmes puissent télécharger sur leur portable et puissent déclencher au moment où elles sont harcelées et qu'ils soient connectées directement aux polices les plus proches? Est-ce que c'est pas ça aussi la solution? Parce que presque Plus belle la vie a presque montré la solution là.
Alors il existe déjà une application qui s'appelle Hands Away, et dans le documentaire on a interrogé l'association qui a créé cette application, donc on en fait la démonstration, et c'est une application qui permet en temps réel de signifier une situation de harcèlement et qui permet de se géolocaliser pour faire appel à des street angels, en fait, donc des témoins qui autour de cette situation peuvent venir en aide à la victime, ou en tout cas du moins la soutenir. C'est aussi une forme d'exutoire, parce que on sait que dans des situations de harcèlement on est souvent sidéré, en fait il y a toujours un moment où on a envie de dire des choses et on est figé, on est complètement figé par la situation tellement elle nous semble hallucinante. Et après, il y a des phénomènes de ressassement. En fait, on passe la journée à se dire, mais j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû agir comme ça, j'aurais dû faire ça, etc. Et ça, c'est très, 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 très culpabilisant pour les victimes. Et ce type d'application, et c'est ce qu'on a pu voir aussi dans Plus belle la vie, ça fait du bien parce que ça montre une vraie solidarité parmi les victimes. Et surtout, ça, on n'est pas seul, en fait, face au harcèlement de rue. Voilà.
La rue est à nous, c'est le documentaire à ne pas rater qui sera donc diffusé ce soir à 23h05 sur France 3 Île-de-France, également en replay sur le site de Île-de-France, france3.fr. Merci Charlotte d'avoir été avec nous, merci Joachim, en espérant que ça fasse avancer un petit peu effectivement les mentalités à la fois aussi. Voilà, merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Marie, 22 ans, en rouge, marche dans la rue, un homme l'interpelle de manière obscène, la jeune femme répond et se fait frapper.
Je rentrais chez moi du travail, je marchais dans la rue. Un homme que j'ai croisé, il s'est permis de faire des bruits dégradants, des sifflements, des coups de langue. Moi, ça m'a énervé. Et dans ma tête, j'ai toute la haine de toutes les fois où on m'a mal parlé dans la rue. J'ai lâché un ta gueule. À partir du moment où il fait demi-tour, je sais qu'il va me frapper. C'était assez violent.
La jeune femme rentre chez elle en état de choc, puis retourne au café solliciter des témoignages en vue de porter plainte. Le patron du lieu lui remet alors la vidéo de surveillance de son établissement, des images accablantes.
Allez, coup de cœur télé à nouveau, cette semaine consacrée à Réunion. C'est le grand final de cette première saison. Vous allez pouvoir suivre ce mercredi sur France 2. Et on a justement Sarah Martin qui joue Victoire, qui est avec nous en ligne. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors c'est une série vraiment dont nous sommes tombés amoureux dès le premier épisode et qu'on suit maintenant depuis 3 semaines avec Laetitia qui était avec nous il y a 15 jours, Lou Denis la semaine dernière, et on continue à soutenir la série encore une fois avec vous Sarah et ce personnage de Victoire qui va bien connaître quelques turpitudes et surtout l'arrivée de son papa sous les traits de Pascal Légitimus dans ses épisodes 5 et 6.
C'est ça. Comment ne rien dévoiler tout en racontant l'histoire. Oui, forcément, Victoire se révèle un peu. Genre, au début, ce personnage un peu haut en couleur, assez forte de caractère, un peu capricieuse. Et en fait, elle se révèle quand même assez fragilité. Elle a envie de bien faire. Et c'est aussi la fragilité du couple, puisque on comprend qu'elle a quand même épousé Antoine, qui n'était absolument pas le choix du père, donc c'est presque un mariage contre nature qu'elle a fait. Et forcément, le père va se trouver très content de cette situation un peu compliquée entre Victoire et son mari. Maintenant, à voir ce que Victoire va faire, quoi, ce qu'elle va choisir.
Et avoir comme père Pascal Légitimus, ça doit être quand même vachement sympa.
Ça dépend, Pascal Légitimus, oui, le personnage de Gabriel.
Un peu moins, oui.
Dans la série, je suis pas sûre. Mais en ce qui me concerne, c'est presque une habitude maintenant, c'est presque un père karmique, parce que dans une autre série, Pascal a été mon père dans 3 unitaires déjà, qui s'appelaient Les Tricheurs.
Exactement, et Leïla Bekti aussi.
Et Leïla Bekti, voilà, c'était les débuts de Leïla Bekti aussi, qui jouait ma fille, voilà. Et donc, on était cette famille arnaqueuse. Donc, c'était un plaisir de retrouver Pascal Légitimus. C'était d'ailleurs la même production à l'époque qui avait produit Les Tricheurs, qui aujourd'hui produit Réunion. En retrouvant de la Réunion, j'ai retrouvé des collègues, d'anciens collègues avec qui j'avais pu déjà travailler auparavant, parce que c'est bien mon 4e tournage quand même sur l'île. Donc voilà. Et vous me demandez pourquoi j'ai voulu accepter son âge, c'est aussi pour toutes ces raisons-là.
La Réunion, c'est donc une affaire de cœur, si je comprends bien aussi. C'est aussi une île de cœur.
Une affaire de famille presque, ouais, complètement. Et c'est vrai que les amis qu'on s'y fait sont des amis qu'on garde toute la vie. Donc j'y retourne à chaque fois avec un bonheur et je retrouve ces gens avec beaucoup de joie. Donc et l'île surtout, qui à chaque fois me saisit de sa beauté. À chaque fois, je découvre autre chose. J'en ai pas fait le tour encore.
Ces 2 épisodes qu'on va voir mercredi, ça va vraiment être les épisodes du quiproquo. Est-ce que c'est bien résumé?
Oui, tout à fait. C'est très bien résumé pour tous les personnages. Et en même temps, c'est bien sûr les épisodes, pas des réconciliations, mais chacun va, oui, se réconcilier en tout cas avec soi-même. Enfin, chacun va trouver sa route, quelle qu'elle soit.
Sur cette première saison, quel est votre plus beau souvenir de tournage? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué particulièrement?
Une scène, c'est très très drôle. C'est vrai que quand je parlais des retrouvailles, c'était aussi l'occasion de retrouver l'acteur Nicolas Brunet, qui joue mon mari. On était élèves au conservatoire ensemble. Vous voyez, on se connaît depuis longtemps. Donc c'était joyeux de se dire qu'on allait être couple à l'écran, parce que voilà, c'est toujours très facile quand on a de la tendresse pour quelqu'un. On se projette plus facilement. Et on avait très très envie, du coup, de jouer ensemble et de faire exister cette intimité, ce couple. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait une scène comme ça sur le bout du canapé un soir, un peu une scène de couple, hein. Et j'espère que le public se reconnaît, parce que Nicolas et moi, on se reconnaissait beaucoup dans certains aspects des scènes, comment les couples s'amusent, se connaissent par cœur, quel levier ils poussent, etc. Et donc, on s'amusait de cette scène, on la faisait en essayant à chaque fois d'être le plus naturaliste possible, à tel point qu'à la fin de la scène, le réalisateur nous a dit « oui, coupez ». Oui, c'est super, en fait, c'est hyper juste, mais du coup, c'est tellement véridique. Et en fait, on ne jouait plus, on était dans un espèce de quotidien, on était bien. Il disait « ouais, mais alors du coup, ça n'a plus d'intérêt pour la caméra, donc on va remettre du peps, on ne dit pas que quand même la fiction est des fois un peu plus grande que la vie ». Mais en fait, ça nous a surpris, ce commentaire, de dire « bah oui, c'est parfait, c'est très bien joué, enfin, c'est même pas joué, mais tellement qu'on s'ennuie ». Faut oser en faire des caisses quand même. Faut oser être un petit peu cabot.
C'est vrai. Même des fois, voilà, paraît un peu superficielle, attachante, même de temps en temps.
Attachante. Oui, mais il faut pour que ce soit un peu succulent, comme je disais. Exactement, c'est ça. Sinon, si c'est juste réaliste, on peut un peu s'ennuyer. Donc. Et en fait, j'avais en tête un personnage qu'on connaît tous très bien, qui est le personnage d'Eva Longoria dans Desperate Housewives.
Gabi.
Exactement. Gabriel Solis. Et qui est ce personnage comme ça qu'on peut avoir envie de gifler, mais qui quand même se révèle être une épouse qui va soutenir son mari, au premier abord, elle peut paraître très égoïste, superficielle, imbue d'elle-même, tout ça. Il y a plus dans ça que, enfin, voilà, il y a plus de couches à l'oignon, quoi, comme on dit.
Et finalement, c'est ça la magie d'une écriture et la magie de la comédie, c'est souvent le personnage qu'on préfère au final.
Tout à fait. Donc enfin, en tout cas, j'espère que c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Moi, c'est ce que j'avais envie d'amener sur ce personnage. Ouais.
Eh bien, en tout cas, Réunion, on ne va pas manquer. Hein. La fin de cette première saison, ça sera mercredi à partir de 21h05 sur France 2, épisodes 5 et 6. Et Victoire va être beaucoup au centre de ces deux épisodes. On ne va pas tout vous dévoiler pour vous garder le plaisir intact de découvrir ces deux derniers épisodes. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous, vraiment, merci beaucoup.
Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une femme aussi épuisante?
Non mais attends, si t'es pas contente, t'as qu'à en changer, hein.
Ben je vais y réfléchir, oui.
Ouais, ben c'est dommage, ouais. Moi qui voulais t'épouser, ça va encore te filer sous le nez.
Papa vient passer quelques jours avec nous, il a des affaires à régler dans l'Ouest.
Ah, t'as pas l'air convaincu.
Non, quand il est là, tous des règles.
On a chacun eu une aventure.
C'est du passé.
Quoi?
Puisque t'insistes, j'accepte de t'épouser.
Allez, vous la suivez, hein, je le sais, hein, tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3 dans Plus belle la vie. C'est un personnage eh bien, qui s'est accroché au Mistral et qu'on voit maintenant très souvent. Personnage de Claire, interprété par Annie Gregorio, qui est notre invitée exceptionnelle aujourd'hui. Bonjour Annie.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est une première dans notre émission. Moi je suis très fier de vous avoir. Personnage de Claire, un personnage auquel on s'est tellement vite attaché. Mais à la base, il était fait pour durer aussi longtemps dans le temps, ou c'est l'attachement du personnage par les fans qui a fait que vous êtes resté.
Ben sans doute, on vit, on ne sait pas jusqu'à quand on va rester dans la série, dans l'émission. Et puis c'est vrai qu'ils m'ont sollicité pour que je vienne. Je pense qu'ils avaient envie de quelqu'un dans mon tempérament. Et je crois que ça a plu au public. Donc je suis toujours là. Je viens, je repars, je me fais mes petits trucs et tout le monde est content. Et moi aussi d'ailleurs, je suis ravi d'être dans cette série.
Quand vous êtes arrivé, parce que vous avez une immense carrière, que ce soit au théâtre, à la télévision, au cinéma, vous avez un palmarès incroyable pour le coup de films. Quand vous êtes arrivé sur ce décor qu'on appelle le 1000, dans le jargon pour le coup, sur les plateaux de Plus belle la vie, et vous avez vu ce magnifique décor avec le bar du Mistral et tout, vous êtes dit quoi la première fois?
Mais j'étais très impressionné et figurez-vous que j'ai eu un trac immense, parce que d'abord la façon de tourner, ça va très vite et c'est une expérience, une école incroyable, qui est formidable. On fait plein d'exercices d'humilité parce qu'on n'a pas le temps de se reposer sur soi. Et puis il n'y a pas de vedette, la vedette c'est la série. Donc ce n'est ni un personnage ni l'autre, c'est la série qui est la star. Donc j'étais très impressionné parce que là il faut être au service de cette façon de procéder. Et ça m'a plu beaucoup, j'y suis rentré, j'ai retrouvé ma jeunesse un peu d'aller vite comme ça. Et ce qui n'enlève pas la qualité.
Exactement. Vous avez souvent des scènes avec Éléonore Sarrazin, que nous on adore dans notre émission, et qui est une fidèle de notre émission. Et moi j'aimerais savoir, est-ce qu'elle vous a demandé des conseils? Comment vous êtes appréhendées un petit peu toutes les deux?
D'abord c'est une enfant de la balle, donc elle m'a rien demandé. Puis elle est très finie comme fille, elle n'a pas besoin de moi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est elle qui m'a accueillie, parce qu'elle était là depuis beaucoup plus longtemps. Elle est charmantissime, elle est très belle, intelligente, sympathique. C'est une elle est bienveillante, c'est une très bonne collègue, voilà.
Bon, vous partagez de beaux moments, je suppose, parce que c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance sur le tournage, pour le coup, de Plus belle la vie entre vous. Mais quel est votre meilleur souvenir à vous, la scène qui vous a peut-être fait rire le plus ou qui a tourné vraiment en rigolade, quoi?
J'étais entre le rire et les larmes, mais des larmes d'émotion, parce que j'ai fait quelques scènes assez vite quand je suis arrivé avec mon amie Sylvie Flepp qui joue Myrta et que je connais depuis de nombreuses années puisque on a joué il y a très 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 longtemps au théâtre ensemble et elle me faisait rire parce qu'elle est très drôle, elle est très dans la novosité et de se retrouver là, c'est aussi grâce à elle si je suis dans l'émission et de se retrouver à jouer je sais pas 25 ans après, c'était très émouvant et puis quand même me fait rire, j'ai eu des fous rires sur le plateau et là on va rejouer une pièce de théâtre ensemble l'année prochaine. Donc c'est chouette quoi de se retrouver, comme quoi ça n'est jamais fini.
Alors, il y a des allers-retours de Claire hein, régulièrement dans la série et puis ça laisse le temps de faire d'autres choses et ça va être le cas puisque bientôt sur M6 on aura un très beau téléfilm qui va s'appeler Apprendre à t'aimer, réalisé par Stéphanie Pilonka. Là vous jouez la maman d'Harry Habitant, là encore c'est un autre rôle sur la acceptation d'une petite fille trisomique. Ce film nous a bouleversé nous quand on l'a vu et là c'est vraiment encore autre chose.
Alors moi j'ai participé, pas avec un grand rôle, mais j'adore Stéphanie Pilonka, et puis j'ai surtout aimé le scénario qui est très 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 bien écrit, parce que l'écriture ça compte beaucoup, et Stéphanie est très impliquée dans ces histoires. Voilà, elle a fait pas mal de documentaires et sur le handicap, et là c'est très touchant, mais ça ne suffit pas pour faire un film, parce qu'il est très bien traité et c'est juste, c'est d'une grande justesse sur l'émotion, sur l'implication, et c'est vrai que c'est douloureux pour des parents d'avoir un enfant au départ, parce que la société ne veut plus ça, hélas, n'a jamais eu la place pour les handicapés, et c'est vrai que pour des parents au jour d'aujourd'hui, comme on dit, ce n'est pas facile, voilà, pour accepter. D'où le rôle de Harry, qui est formidable et qui fait ce papa qui est très meurtri et qui après, bien sûr, l'humanité reprend le dessus, puis le fait d'être père, tout ça reprend le dessus.
Vous êtes peut-être même la première avec Julie de Bona, hein, qui accepte directement et qui va même mettre des coups de pied aux fesses, hein, quand même, au personnage d'Harry. Hein.
Exactement, parce que il n'y a pas photo, étant donné que être maman, c'est quelque chose, et faire un enfant, il est ce qu'il est. Mais voilà, c'est la chair de ma chair, c'est la chair de sa chair. Donc c'est comme ça. C'est vrai que moi, dans le rôle, j'aime mon fils, mais c'est ma petite fille, et c'est un être humain.
On va découvrir ce film bientôt, hein, sur M6, ça s'appelle Apprendre à t'aimer. Moi, je vous conseille vraiment, on en reparlera, bien sûr. On recevra Julie de Bona et Harry Bitton, justement, pour nous en parler aussi. Et nous, on va continuer à vous suivre, évidemment, tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h20 sur France 3, dans Plus belle la vie, bien évidemment. Merci beaucoup, Annie.
Merci à vous tous. On est vraiment bien, sans elle,
qu'on soit noir ou blanc. Et on va marquer une courte pause découverte musicale dans un instant avec le DJ Eugène de Rastignac, qui vient de sortir un tout nouveau single. Alors surtout, ne le manquez pas. On revient dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. C'est la dernière partie de notre émission et on va la terminer en musique, une fois n'est pas coutume, avec aujourd'hui le DJ Eugène de Rastignac qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour, ça va bien ?
Oui, ça va très très bien. Et toi, merci d'être avec nous.
Ouais, cool. Bah, écoute, toujours avec plaisir. En tout cas, c'est pas la première fois et ça, j'espère, ne sera pas la dernière. Toujours un bon moment passé, de manière très particulière parce qu'on se voit pas, mais c'est toujours un bon moment passé en tout cas.
Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène, effectivement, du côté de Stéréoparc, le festival électro de Charente-Maritime. Et puis donc là, c'est un nouvel opus que tu vas nous présenter aujourd'hui dans l'émission, qu'on va vous faire découvrir d'ailleurs en intégralité d'ici quelques instants avec toi. Moi, j'aimerais, pour ceux qui te connaissent pas aujourd'hui, comment tu te définirais en tant que DJ, comment tu définirais ta musique, si on te posait la question, Eugène?
Ouais, c'est vrai que c'est toujours un truc, parce que tu sais, quand tu fais tes sets, quand tu parles un peu de toi, et toutes espèces de cases dans lesquelles, c'est normal, hein, t'as envie de rentrer toi, mais en tout cas, voilà, dans lequel on essaie de se mettre. Avant tout, faut qu'il y ait quelque chose de dansant et de mélodique. Les choses qui me séduisent, en tout cas, le plus, c'est marrant, parce que c'est, en fin de compte, il y a une espèce de grand écart, c'est aussi bien la techno que le disco. Tu vois, espèce de truc entre les deux. Et donc, j'aime bien tout ce qui est house, tout ce qui est disco house, tout ce qui est techno house et tout ce qui est techno. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça l'idée. C'est une espèce de truc très bizarre, deux univers différents évidemment, mais pour moi, ce sont quand même les deux piliers fondamentaux, à mon sens, hein, c'est mon regard, pour moi, de la musique électronique, la techno d'un côté, le côté disco et house de l'autre. En fin de compte, on va retrouver Détroit et on va retrouver Chicago. Voilà, c'est ça.
Alors, il y a quelque chose de très surprenant quand on te voit sur scène, parce que, évidemment, quand on voit tous les DJ, ils sont tous derrière des platines. Toi, tu joues vraiment sur scène?
Ouais, ça dépend de l'humeur, c'est-à-dire, enfin, de l'humeur, ouais, ça dépend des moments, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'aime bien rajouter des claviers, ou tout 2019 a été essentiellement basé, du coup, sur la voix. Chaque fois, puisque j'avais des titres qui sortaient en radio, et que le premier titre qui est vraiment sorti en radio pour moi, c'était une chanson sur laquelle j'avais posé ma voix, du coup, je chantais vraiment sur scène. Et c'est quand même assez kiffant de pouvoir en même temps chanter aussi une de ces chansons. Du coup, tu deviens chanteur, tu deviens plus DJ, que DJ producteur. Tu deviens chanteur. Mais en même temps, tu vois, au fur et à mesure de ce que je peux composer, de la manière dont ça peut fonctionner, à chaque fois, je me dis, tiens, peut-être que là, je pourrais avoir une touche clavier. Donc, tu vois, je vais mettre mon clavier ou du coup ma voix. Puis ben, malgré tout, ma table de mixage est aussi mon premier instrument. C'est comme ça en tout cas que je le définis. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas uniquement de passer une chanson A et une chanson B, c'est de pouvoir trouver, j'aime bien mixer avec 3-4 platines en même temps. Et l'idée, c'est de trouver la note et le rythme dans chacune des tracks des chansons que je peux envoyer à un instant T pour pouvoir faire un truc à moi à ce moment-là.
Alors, le nouveau titre que l'on peut télécharger légalement hein, sur toutes les plateformes, ça y est, on peut y aller, hein, sur Apple Music, etc. Ça s'appelle Silent Land in My Heart, avec la très belle voix également de Nora, avec qui tu as fait un featuring sur ce titre.
C'est ça, ouais. J'adore collaborer au niveau voix avec les artistes parce que ça permet de donner des univers différents. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était une promo avec une chanson que j'avais faite avec Kaz Hawkins. On s'était vu cet été dans le cadre du Cognac Blues Passion. Et ce morceau-là a plutôt bien fonctionné cet hiver. Il a été aussi playlisté chez Virgin, notamment. Et donc, tu vois, je suis passé d'une voix soul blues énorme de Kaz à une voix plus fraîche de Nora, qui dégage beaucoup, beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, là, justement, le fait d'être confiné, ça permet de travailler sur mon prochain album, qui j'espère devrait sortir bientôt. Enfin, en juin, juillet, je sais pas. Enfin, à voir, en tout cas, cette année. Et j'ai demandé, voilà, j'en ai profité pour demander à des voix, des artistes que déjà humainement me paraissent aussi intéressants, parce que j'aime bien fonctionner avec ça, et puis qu'on des voix aussi, voilà, qui me touchent. Donc, il y aura encore quelque chose avec Kaz, ça, c'est sûr. J'ai refait un autre titre avec Nora, et puis j'attends les autres artistes, j'aurai envoyé mes maquettes, comment ils pouvaient le sentir, mais j'aime bien ça, en tout cas, ça, c'est sûr.
Alors, Eugène, les mois qui arrivent vont s'avérer compliqués. Toi qui aimes beaucoup faire de la scène, comment tu vas vivre cette nouvelle façon de faire la musique et de faire de la musique pour le public dans les 4-5 prochains mois qui arrivent, puisque on sait d'ores et déjà que les festivals d'été s'est plié. Pour le moment, il sera très difficile de pouvoir faire de la scène d'ici le mois de septembre.
Il y a déjà deux choses. Enfin, la première chose pour moi, c'est que je me dis, bon, on fait de la musique, il n'y a rien de grave, il y a plus important, qui est la santé. Et cette situation très particulière d'un point de vue évidemment social, d'un point de vue économique. Donc évidemment, moi je mets complètement de côté cet aspect, entre guillemets, le fait de pouvoir jouer, qui a un côté très égocentrique, mais au bon sens du terme, et qui est très très plaisant, mais je kiffe par-dessus tout ça, par rapport à cette situation qui est quand même hyper dramatique. Donc je me dis, voilà, je suis chanceux, j'ai du bol, je peux quand même faire mon travail à la maison, je peux quand même en vivre aussi, donc c'est quand même super cool. Et puis, à côté de ça, ça m'a permis aussi de me dire, je savais plus ou moins, mais tant que t'es pas devant cette situation-là, tu fais pas gaffe, le fait de pouvoir jouer, de faire des directs sur les réseaux, c'est une autre manière d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vois pas ton public, mais tu vois que t'es suivi, tu vois que ça écoute, t'as des petits mots, tu vois, j'essaie d'en faire de trois, quatre par semaine, pas non plus que ça soit trop systématique. Et puis ça prend du temps, mais je le prépare de la même manière. Et quand j'envoie le live, tu vois, j'ai toujours ce petit côté un peu émotionnel, quoi, qui est quand même là, sauf que tu vois pas les gens. Je prends du plaisir à faire ça, donc je me retranche derrière ça pour le moment. Et puis derrière aussi le fait d'écrire de la musique, et ça aussi, quoi, parce qu'on a toujours cette volonté de pouvoir partager au maximum ce que l'on peut composer.
Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, on va écouter le tout nouveau titre d'ici quelques instants. Juste avant, on rappelle où c'est qu'on peut te retrouver justement en direct sur tes petits lives et tes réseaux sociaux, Eugène.
Alors essentiellement sur Facebook, je fais des sets. Très souvent, en semaine, je fais une demi-heure de set, tu vois, l'histoire de, genre 18h30, 19h, à l'heure où les gens se posent un peu plus. Et puis, quand arrive le week-end, je fais des sets plus tard, vers 22h, où là, je suis un petit peu plus long et en fonction de l'humeur. Donc voilà, on retrouve, tu sais, ce grand écart dont je parlais en début d'interview, à savoir, ça peut très bien être du disco, comme ça peut être de la techno, de la tech house ou de la house, voilà, c'est en fonction de mes envies. Le prochain risque d'être certainement techno ou disco ou tu vois, il y a pas de règles, et c'est ça qui est assez cool, ce côté libre aussi. Donc voilà, c'est essentiellement sur Facebook.
Eh ben, tu reviens nous en parler, évidemment, quand tu veux. On découvre maintenant ce titre dont je te laisse redire le titre. Vas-y, c'est à toi.
Silent Land in my heart.
Yes, avec l'accent anglais en plus.
Ouais, c'est ça. Je m'entraîne tous les jours, j'ai le temps.
Eh bien, on l'écoute tout de suite dans Chute en écoute à télé. Merci à toi, Eugène de Rastignac, d'avoir été avec nous. Et ça a permis de terminer l'émission ensemble en musique avec toi. Merci.
À très bientôt.
Feeling bad when I'm not here, still out, feeling my flame. You cry with all my pain and I know this fame. Standing up for all the right, being in love, because I'm nights and alone. Again this night, you know my pain. I leave the sun perfectly fine. You run and come, you may feel shy. Calling out the common truth, digging depth. For me to you, there is fine. For making how can you feel this way? And you feel my mysterious way of life. And you kill my silent land in my heart. My trouble.
Prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé avec David Bann qui sera notre invité d'honneur. Il nous parlera évidemment de la comédie musicale Bernadette, où ça en est, de son deuxième album et plein d'autres projets. Bayareas également nous livrera plein de surprises, dont une fiction réalisée, un court-métrage par elle-même qui vient de sortir sur YouTube. Elle est à l'affiche également de la série Tandem et bientôt à l'affiche du film Miss, plus plein d'autres surprises, bien évidemment à ne pas manquer dans Chute, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h40 sur Bergerac 95 pour la quotidienne et sans oublier le grand retour de l'hebdo lundi prochain à 20h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.